Mémoire vive,
présentée par Vincent Lemaire
et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Un film documentaire au sommaire de Mémoire vive aujourd'hui, La France des camps, 1938-1946. Un film écrit par Denis Péchanski et réalisé par Georges Amat. Diffusion sur France 2 ce jeudi, le 8 avril, dans la case documentaire Infrarouge, en deuxième partie de soirée vers 22h45. Denis Péchanski, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, directeur de recherche au CNRS. Et le film dont vous venez nous parler aujourd'hui s'ouvre sur des images aériennes du camp de Rivesaltes, plus précisément les ruines du camp de Rivesaltes à quelques kilomètres de Perpignan. Et sur ces images, votre commentaire au début de ce documentaire, ces ruines, ce sont les seules traces visibles de l'enfermement de 600 000 personnes dans plus de 200 camps sur le territoire français entre 1938 et 1946. Cette disparition presque complète des traces, Denis Péchanski, cela s'explique selon vous comment que les camps d'internement ont mis du temps à émerger dans la mémoire nationale ?
Il y a plusieurs facteurs. Enfin, d'abord, on va noter ce changement tout à fait étonnant. La libération, évidemment, il y avait toujours ces camps, mais il n'y avait pas de mémoire. Aujourd'hui, on a cette mémoire des internés, au moins d'une partie des internés, mais il n'y a plus les camps. Donc on est passé de camps sans mémoire à une mémoire sans camps. Alors c'est lié, bien sûr, au fait que pendant des décennies, on a oblitéré, occulté Vichy comme État français, ayant sa propre politique et sa propre logique d'exclusion. Et le camp était un instrument au service du régime de Vichy pendant les premières années pour la mise en œuvre de ce qu'on a appelé la Révolution nationale, on pourrait y revenir. Mais on a aussi oublié, plus encore peut-être, et je pense que beaucoup de téléspectateurs vont le découvrir aujourd'hui, que des centaines de milliers de personnes, et en particulier les Espagnols, ont été internés en 1939-1940, c'est-à-dire en système démocratique, avant le basculement, avant la débâcle, avant l'instauration d'un régime autoritaire, et puis de l'occupation.
Donc ces camps d'internement, ce sont, dites-vous, on le voit dans ce documentaire, on le voit dans vos différents travaux d'historien, ce sont des instruments qui ont été utilisés donc de 1938 à 1946, évidemment la chronologie est importante, au service de différentes politiques, nous allons effectivement y venir. Mais devant ce chiffre considérable que vous avancez, le chiffre de 600 000 personnes qui ont été internées de 1938 à 1946, il faut peut-être commencer par préciser, Denis Péchanski, ce qu'on entend par internement.
Oui, ça, c'est une catégorie très particulière, c'est-à-dire que c'est une mesure administrative, hein, l'internement administratif, comme son nom l'indique, qui vise des personnes non pas pour des crimes ou des délits qu'elles auraient commis ou qu'elles ont commis, mais pour le danger potentiel qu'elles représentent pour l'État ou pour la société. Et donc, on n'est pas dans une procédure policière et judiciaire traditionnelle qui aboutit éventuellement à la prison, au jugement. Bon, là, on est dans des mesures d'exception, des mesures qui n'ont rien à voir avec des actes proprement dit, simplement une mesure de sûreté, en quelque sorte, pour mettre à l'écart un groupe de personnes, population, qui pose problème à la politique de l'État.
Alors ce film documentaire diffusé sur France 2 jeudi soir, c'est, on pourrait le dire en quelque sorte, la mise en image de vos travaux de recherche que vous avez entamés depuis bien longtemps. Rappelons le titre de votre doctorat d'État, « Les camps français d'internement 1938-1946 ». Cette histoire, elle commence donc avant la déclaration des hostilités, avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Et l'un des moments forts, le premier, au tout début de votre film, c'est ce que vous montrez de ce qui se passe en février 1939 avec l'arrivée massive des réfugiés républicains et espagnols. Ce sont des centaines de milliers de personnes qui se pressent à la frontière entre l'Espagne et la France et qui vont être donc rassemblées en plein hiver. Ce sont près de 100 000 personnes, dites-vous, sur la plage d'Argelès. C'est le début donc de la politique massive d'internement.
Oui, imaginez quand même, c'est à peu près 500 000, disons 475 000 personnes qui vont passer le Pertus, donc le col à la frontière de la Catalogne, de l'Espagne. Or, ces hommes, ces femmes se sont battus pour la République espagnole. Une République qui a été vaincue par un général factieux, Franco, qui a été aidé par Mussolini et par Hitler. Bon. Ils arrivent en France, le pays des droits de l'homme, le pays de la Révolution française. On est en 1939, c'est le 150e anniversaire de la Révolution française. Et ils vont se retrouver accueillis comment ? D'abord dans des plages, à même le sable, dans des conditions terribles. Et là, on présente des images inédites dans la télévision française sur la façon dont on les a effectivement accueillis sur ces plages. Et ils vont même construire les baraques dans lesquelles ils vont se retrouver internés. Dans la France, qui était leur idéal en quelque sorte, ils pensaient tout de même pas avoir été vaincus par Franco pour être finalement enfermés dans des camps d'internement dans leur France des droits de l'homme. Donc là, on a cette contradiction-là qui va d'ailleurs rester dans la tête de ces Espagnols hein, pendant des décennies, cette forme de trahison de leur combat. Bien sûr, la frontière a été ouverte, et là, bon, c'est pour ça que c'est ambivalent hein, comme situation. Mais on aurait pu faire autre chose que les mettre dans des conditions aussi dramatiques.
Alors la situation change évidemment à partir du mois de septembre 1939 avec la déclaration de guerre, puisque ce sont deux nouvelles populations donc, qui vont être internées et qui vont venir rejoindre donc, les républicains espagnols. Alors là, dans une très grande diversité, effectivement, l'État juge potentiellement dangereuse un certain nombre de groupes de la population française ou de réfugiés.
Oui, alors là, on est aussi dans l'absurdité. Hein. Si on fait un rapport à la stratégie et à la situation mondiale, mais on est toujours dans la même logique d'exception. C'est-à-dire qu'on a des événements qui s'imposent, et face à ces événements, on va prendre des mesures exceptionnelles, et le camp d'internement est une de ces mesures exceptionnelles. Le problème, c'est que ça va viser les ressortissants de puissances ennemies, ce qui est a priori logique. On a déclaré la guerre à l'Allemagne et à l'Autriche, parce que l'Autriche était absorbée dans l'Allemagne, et donc on convoque en septembre 1939 les ressortissants autrichiens et allemands. D'abord les hommes, et en mai 1940, on va rajouter les femmes. Bon. Et là, au lieu de faire un tri immédiat, on va avoir pendant 2-3 mois 20 000 personnes qui vont se retrouver internées. A priori, ça choquerait personne de les voir mis de côté. On déclare la guerre à l'Allemagne. Sauf que, je sais pas, peut-être 80-85% d'entre eux, ce sont des hommes qui ont fui l'Autriche et l'Allemagne parce qu'ils étaient juifs et donc ils fuyaient les persécutions antisémites et ou opposants politiques et donc ils fuyaient la répression politique d'Hitler. Donc ils se retrouvaient enfermés en France au nom d'une guerre que la France avait déclarée à celui qui était responsable de leur exil. On est dans l'absurdité la plus totale, sauf si effectivement on considère la guerre, comme les dirigeants d'alors la considéraient, comme au bout du compte d'abord une guerre nationale et non pas comme une guerre idéologique contre le nazisme. On refaisait la guerre contre l'Allemagne et là donc ça permet à travers l'internement, vous voyez, on touche du doigt des questions fondamentales de l'approche de la guerre. Et non. L'autre catégorie, bien sûr, la plus traditionnelle, plus connue, c'est celle des militants communistes, puisque le Parti communiste, à la suite du pacte germano-soviétique, va changer sa stratégie, va développer une thématique beaucoup plus pacifiste, alors qu'il était anti-nazi et au premier rang de la lutte contre le nazisme et de la mobilisation. Et donc, le Parti communiste va être interdit et, dans la suite, on va avoir un décret très important qui est un décret de novembre 1939 qui va permettre l'internement de toute personne française ou étrangère, parce que le premier décret ne visait que les étrangers, la française ou étrangère, qui représente un danger potentiel pour la sécurité nationale, la sûreté de l'État. Et ça va être en quelque sorte l'instrument privilégié de l'internement administratif.
Alors Denis Véchanski, dans votre film documentaire donc présenté ce jeudi sur France 2, il y a évidemment des images d'archives, on vous voit à l'écran, il y a vos analyses et vos commentaires, et puis il y a des témoins. Et dans la première partie justement de ce film, hein, qui suit un ordre chronologique, on entend Michel Del Castillo, qui était interné donc avec sa mère dans ces camps du sud de la France. Il dit d'ailleurs, et ça rejoint ce que vous venez de dire, la France était devenue le dernier refuge pour beaucoup d'Européens qui fuyaient les persécutions ou la guerre d'Espagne. Et il raconte qu'il était le témoin avec sa mère d'une guerre civile qui continuait des fois dans les baraques des camps, parce que justement on avait des populations très différentes et parfois très opposées idéologiquement.
Eh oui, la guerre continue. La guerre d'Espagne continue, puisque la guerre d'Espagne, c'était bien sûr la guerre contre Franco, mais on sait très bien que le front des résistants à Franco était traversé par des oppositions irréductibles entre communistes, anarchistes, socialistes. Et effectivement, il en est témoin, parce qu'il se retrouve dans ce camp de Rieucros, en Lozère, où se trouvent les femmes indésirables, ce qu'on appelle les indésirables étrangers, terme de l'époque, et en particulier les Espagnols. Vous me donnez l'occasion de dire que, bon, on reviendra sur le fait que, effectivement, l'historien apparaisse à l'écran, que j'apparaisse à l'écran parce que c'est un choix délibéré. Il y a une raison précise. Mais le témoignage de Del Castillo est extraordinaire. Et de façon générale, la manière dont les témoins scandent le film, je mets de côté tout jugement sur le film, hein, mais je parle des personnalités, ça donne une charge absolument extraordinaire. C'est à la fois... Ce qui m'a frappé, je me souviens d'une des projections d'avant-première, d'une discussion que j'avais avec une amie qui me disait « Mais on voit comment ils étaient 65 ans plus tôt. » C'est-à-dire que quand c'était des petits filous plein d'humour, on retrouve l'humour 65 ans plus tard. Je pense à Alain Bronner. Alexandre, il est extraordinaire là-dessus. Ou bien, bon, voilà, on a différents types, quoi, qu'on retrouve simplement avec quelques rides supplémentaires. Et c'est très fort, c'est très émouvant. Malheureusement, pour chacun, on a des heures d'interview, bien entendu, et il y a quelques minutes à peine qui sont retenues. Mais on essaie de garder ce qui est le plus fort. Et à mon avis, ce que les téléspectateurs vont retenir, en particulier, ce sont quelques phrases terribles, chocs, quelques moments de ces témoignages-là.
Alors, on continue avec vous, Denis Péchanski, à parcourir à grands pas cette histoire des camps d'internement en France. Arrive la défaite, juin 1940, l'armistice, et le maréchal Pétain très vite dénonce les forces de l'anti-France, les forces qui ont, selon lui, préparé la défaite. Ce sont les Juifs, les francs-maçons, les étrangers, qu'il s'agit donc pour Vichy d'exclure de la société française. Et là, vous y revenez souvent dans ce film, pour vous, l'internement administratif, c'est bien le cœur de la politique de Vichy.
Eh oui, parce qu'on a changé de logique. C'est-à-dire que l'internement administratif, jusque-là, s'inscrivait dans une logique d'exception. Voilà, avec des dérapages, hein, des dérives qui sont porteurs de leçons aussi jusqu'à aujourd'hui, hein, ces dérives en système démocratique. Mais là, on est dans une toute autre logique, c'est-à-dire que l'exclusion est au cœur du régime de Vichy, puisqu'on considère Pétain, Laval, quelques autres, enfin tous les dirigeants de l'époque considèrent, thématique très traditionnelle dans l'extrême droite française, que la défaite, l'occupation est un symptôme, c'est pas une cause, et que la crise fondamentale trouve sa source dans ces fameuses forces de l'anti-France que vous évoquiez, parce qu'elles seraient responsables de cette déchéance, ce délitement de la société française depuis des décennies et des décennies, voire depuis la Révolution française. Et donc on régénère la société française de l'intérieur en rassemblant les éléments dits purs autour des valeurs traditionnelles, travail, famille, patrie, piété, ordre, et on va exclure les éléments impurs, ceux que vous évoquiez, juifs, communistes, étrangers et francs-maçons, en interdisant toute leur structure et en se servant de l'internement comme un moyen privilégié en zone sud, en zone non occupée, sous le régime de Vichy, sans la moindre présence allemande, pour mettre en œuvre cette politique d'exclusion qui est au cœur du régime, qui est consubstantiel du régime. Je voudrais simplement donner un chiffre. On est à la fin 40, décembre 40. Il y a 55 000 internés en zone sud, plus Afrique du Nord, qui dépendait uniquement de Vichy. Et il y en a 2500 maximum en zone nord. Ça ne veut pas dire qu'on vit mieux en zone nord qu'en zone sud. Mais simplement, les Allemands ne privilégient pas à ce moment-là l'internement administratif comme outil de leur politique de persécution et de répression, alors qu'il est au cœur de la politique de l'État français de Pétain.
Alors Denis Péchanski, on avance toujours à grands pas dans cette histoire des camps d'internement. 1941-1942, une nouvelle logique apparaît. En plus de la répression et de l'exclusion, les camps d'internement en France deviennent des outils de persécution. Persécution au premier rang des Juifs, bien sûr. et les camps gérés par l'administration française qui deviennent petit à petit des antichambres à la déportation.
Eh oui, vous mettez le doigt sur le point central, on ne le sait pas. Je pense qu'on ne le sait pas. Mais pratiquement tous les camps français d'internement, de zone nord comme de zone sud, étaient gérés par l'administration française. Y compris quand c'était les Allemands qui demandaient l'internement, comme ça a été le cas pour Pithiviers-Bonne-la-Rolande, c'était l'administration française. Drancy, qui était le lieu de transit vers Auschwitz-Birkenau, donc vers les trains de la mort, vers la mise en œuvre de la solution finale, vers l'extermination, vers les chambres à gaz. Drancy a été jusqu'en juillet 1943 sous administration française. C'est simplement en juillet 1943 que les Allemands prennent la main. Alors on a 2-3 camps comme Compiègne, comme Romainville, qui sont sous administration allemande, mais c'est tout. Tout le reste est sous administration française. Et là, c'est intéressant parce que on n'est plus dans la logique d'exclusion, on n'est plus avec Vichy aux manettes. Là, c'est les Allemands qui ont décidé la mise en œuvre de la solution finale. C'est pas Vichy. Simplement, Vichy accepte de co-gérer la mise en œuvre de la solution finale en France. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une logique d'exclusion, qui est celle de Vichy, on est dans une logique de déportation pour l'extermination, qui est celle de l'Allemagne, qui est celle de l'occupant, et Vichy va accepter de négocier la participation de l'administration française à cette déportation des Juifs de France, et les camps vont servir de lieu de transit, de rassemblement, avant cette déportation des 76 000 Juifs de France.
Mais cette nouvelle et triste mission, elle se surajoute à celle qui perdure et qui avait été créée par Vichy d'abord.
Alors effectivement, on a toujours des internés, d'ailleurs il y a le témoignage d'Odette Niles, qui était la petite amie de Guy Moquet jusqu'à l'exécution de Guy Moquet en octobre 1941 à Châteaubriant.
Oui.
Et quand j'étais allé la voir, c'était très émouvant parce que je lui disais, mais parle-moi d'abord de toi, de ton expérience à Châteaubriant. Et elle me dit, mais tu sais, je connaissais pas sa vie. Elle me dit, mais tu sais, je peux parler de ça, mais je peux parler aussi d'Incourt, je peux te parler de Gaillon, je peux te parler de Mérignac. Elle avait fait 5 camps. Elle avait été internée de 41 à 44. Bon. Et effectivement, Vichy a continué à interner des communistes, en particulier des opposants politiques ou des présumés tels, ou des prostituées, ou des souteneurs, enfin toute une série, marché noir, toute une série de catégories, toujours après 1942, même si le rôle principal des camps n'était pas là après 1942.
Alors Denis Péchanski, vous avez commencé à parler, à évoquer le camp de Drancy, donc Drancy qui a une place particulière. Vous dites dans votre documentaire, donc La France des camps, 1938-1946, diffusé ce jeudi sur France 2, vous dites, vous nous révélez qu'il y a très peu d'images de Drancy. Il y avait très peu d'images de Drancy jusqu'à un jour de 2008 où au mémorial de la Shoah, une conservatrice a découvert des documents que vous montrez et qui documentent de manière particulièrement éclairante donc ce qui s'est passé à Drancy pendant ces tristes années.
Alors on a deux documents, effectivement, un qui est qui se trouve au mémorial de la Shoah dans les fonds du Centre de documentation juive contemporaine, qui est je laisse le téléspectateur le voir, mais c'est un journal assez exceptionnel tenu par un interné et qui sera ensuite déporté. Et puis il y a ces images prises par les Allemands qui finalement ont été récupérés par un interné qui était toujours à Drancy au moment de la libération. Mais Lior Smadja, qui va trouver ces documents, Lior Smadja Lalieu, elle ne va pas les trouver à Paris. Elle va les trouver par hasard en Pologne, à Varsovie, en 2008, à l'Institut d'Histoire, où elle tombe sur cet album. Et c'est très émouvant parce que, bien sûr, ce sont des images de propagande pour l'essentiel, mais on a malgré tout quelques images qui montrent l'arrivée en 1944 d'internés du sud de la France qui sont transférés à Drancy juste avant leur déportation. C'est effectivement un des moments forts grâce au mémorial de la Shoah, bien sûr.
Alors, on vous voit, je le disais, à l'image de Denis Piechanski, présenter certains témoins, commenter certains documents d'archives. Alors, vous le disiez tout à l'heure, on en reparle maintenant. Pourquoi ce choix d'apparaître donc dans ce documentaire, vous-même? Et puis, quelles sont peut-être justement les images d'archives qui sont présentées aujourd'hui dans ce film et qui sont pour vous les plus belles découvertes pour l'historien que vous êtes?
Écoutez, d'abord, vous disiez que j'avais fait ma thèse d'état sur le sujet. Aucun des interviews qu'on présente, je ne les avais fait à ce moment-là. Je connaissais pour les documents qu'on a retenus, la moitié des documents qu'on a retenus. Bon, c'est vous dire que tout bouge, tout change. C'est pas les thèses d'aujourd'hui, c'est une thèse d'état. J'ai mis 10 ans, il y a plus de 1000 pages. Bon. Alors, le problème, c'est de passer à autre chose, de faire passer un film, une émotion. Et puis, bon. Alors, c'est notre troisième film avec Georges Amat. On l'a fait sur la traque de la fiche rouge, on l'a fait sur la propagande de Vichy, et là, on le fait sur les camps d'internement. Alors, effectivement, c'est un choix. Il y a un choix de présenter l'historien. Alors évidemment, c'est rassurant pour mon ego, mais c'est pas l'objectif. Hein. L'objectif, c'est de montrer ce qui se passe dans l'arrière-cuisine. C'est original, si vous voulez, par rapport aux approches documentaires habituelles. C'est pas des images, des films ou des photos plus des témoins. Là, on a un historien qui met en scène, en quelque sorte, cette histoire, qui prend par la main le téléspectateur et qui va expliquer, c'est le fil rouge. Et qui en particulier va expliquer ce qui se passe dans l'arrière-cuisine de l'historien. Il va montrer les archives, il va sortir les documents.
Parce qu'on vous voit donc vous-même dans les fonds d'archives, ouvrant des boîtes d'archives, les commentant face à la caméra.
Oui, bon, alors évidemment c'est une mise en scène, mais c'est pas simplement une mise en scène. C'est que effectivement je sors les documents des archives. C'est comme ça que j'ai travaillé, c'est comme ça que je les ai repérés, et que on se retrouve avec des documents administratifs les plus terribles par leur froideur, et en même temps des documents comme regardez, c'est évoqué là par mon ami du CERCIL, du Centre d'études recherche sur les camps d'internement du Loiret, qui est Hélène Moucharzet, qui est la directrice et qui est présentée à l'écran, et qui a dans les mains le journal de l'infirmerie des gosses à Pithiviers à l'été 42. Voilà. On a toute l'horreur de l'abandon des gosses et ensuite leur déportation dans un document administratif de ce type.
Alors Denis Piechanski, on va avancer pour arriver au terme de cette histoire. Vous évoquiez le camp de Drancy, prenons celui-là comme exemple. Drancy ne va pas se vider à la libération de Paris. Je rappelle la périodisation que vous avez retenue pour votre thèse et pour ce film, 1938-1946. Les camps d'internement vont être utilisés au-delà de la fin de la Seconde Guerre mondiale sur le sol européen. Alors, de qui va se remplir le camp de Drancy en 1944, après la libération de Paris?
Oui, il faut déjà noter qu'on va montrer le seul film qu'on ait conservé de Drancy, qui est un film du Drancy d'après la libération. Bon. On voit bien que les conditions sont quand même pas les mêmes que sous l'occupation et au moment des déportations. Donc, en soi, c'est déjà utile. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors bien sûr, on a la guerre qui continue. Il ne faut pas oublier que le débarquement, c'est le 6 juin, et que la capitulation, c'est le 8 mai, et que jusqu'au 8 mai 45, donc pendant 11 mois, on va avoir des zones, comme les poches de l'Atlantique d'ailleurs, mais ailleurs, qui sont sous occupation allemande. Donc la guerre continue, l'épuration est lancée, la concurrence politique autour de l'épuration aussi, la volonté d'exutoire après 4 années d'occupation insupportable, se venger des 6 derniers mois de 44, là, de janvier à juin 44, qui ont été terribles parce que la milice a été très présente et qu'il y a eu une radicalisation absolue du régime. Et donc, il y a une forme de vengeance qui prend toutes les formes, les exécutions sommaires, l'envoi dans les prisons ou l'envoi dans les camps d'internement. Et on a là une épuration qui passe aussi par un internement massif. On a 60 000 internés en novembre 1944, mais là, bien sûr, dans une autre logique. On est dans une logique d'exception. Rien à voir avec les déportations, rien à voir avec la logique d'exclusion, mais on a, voilà, des gens, alors essentiellement des suspects de collaboration, mais pas simplement, suspects de collaboration. Hein. La plupart vont être libérés, d'ailleurs. Suspects de collaboration, mais aussi marché noir, mais aussi des trafiquants, et puis des tziganes. Des tziganes qui avaient été internés en 1940 et qui vont se retrouver encore de 40 à 46 internés parce qu'on considère que c'est dangereux de les laisser comme ça circuler en France alors que la guerre continue. Là, voilà une catégorie pour laquelle mon schéma ne colle pas. Je le dis tout de suite parce que là, la continuité est à l'ordre du jour. Le rejet du tzigane espion et du tzigane voleur, c'est une continuité depuis en Allemagne comme en France, depuis la fin du 19e siècle au minimum. On va lutter contre ce qu'on appelle le fléau tzigane, entre guillemets, hein, bien avant Hitler. Et puis, on va imposer un carnet anthropométrique en France bien avant l'instauration d'une carte d'identité. Mais le carnet anthropométrique, il vise les nomades.
Alors, une dernière question, et je vous demanderai de répondre vraiment en quelques mots. Il nous reste très peu de temps, Denis Péchanski. Donc, pour conclure, vous êtes investi dans le projet de mémorial du camp de Rivesaltes, donc ce grand camp qui était situé à côté de Perpignan. Comment, par ce mémorial réalisé en ce moment, dans ces années 2000, comment rendre compte des mémoires qui s'entrecroisent dans ces camps d'internement pendant les années noires du XXe siècle?
Je peux vous dire que c'est encore pire que ce que vous pensez. Parce que moi, j'ai à gérer non seulement la mémoire de l'internement administratif pendant la guerre, mais il s'avère que Rivesaltes, et c'est pour ça qu'on a encore les ruines, est resté camp militaire. Donc ça a été donc les Juifs, les Espagnols, les Tziganes, les marchés noirs, on se retrouve à la Libération avec des suspects de collaboration, des Allemands, parce qu'ils sont prisonniers de guerre. Et ça continue, parce que ça va servir pendant la guerre d'Algérie. Donc on a trouvé quelques centaines de prisonniers FLN qui se trouvaient là. Et puis, il s'avère qu'en 62, c'est là que des milliers de harkis vont être accueillis, entre guillemets, parce que les conditions n'étaient pas extraordinaires, mais au moins ça leur a sauvé la vie, entre 62 et 64, et au-delà de 64 pour quelques dizaines de familles, à Rivesaltes. Et je dois faire avec ça. Eh bien, ce que je pense, c'est que on a une continuité qui est... Évidemment, on ne peut pas dire qu'on puisse gérer une mémoire unifiée. C'est impossible. Mais en revanche, c'est une histoire... Même des déplacements forcés, qui est la caractéristique de l'histoire du XXe siècle. Cette histoire des déplacements forcés et de l'attitude de mise à l'écart de ces populations potentiellement dangereuses par un État qui se défend ou qui attaque.
Denis Péchanski, je vous remercie et je renvoie donc tous les auditeurs au documentaire diffusé ce jeudi soir à 22h45 sur France 2, documentaire que vous avez écrit, La France des camps 1938-1946, réalisé par Georges Amat. Merci encore.
Merci.